L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico, votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Bon début de semaine, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette autre semaine de vol en notre compagnie. Merci de faire confiance à Volume 3 pour aborder les questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation, parce que nous donnons le ton. Restez sur 87.9, sur volume3media.com et aussi sur l'application Volume 3 Cameroun, disponible sur Play Store. Nous sommes parés au décollage et justement, voici notre plan de vol.
Aujourd'hui, on classe éco avec notre expert, on va à l'école de la dette flottante. On vous propose des accessoires ce lundi avec Marilyn Peggy Numbu, notre passagère du jour. Au marché, on va acheter du miel et nous ferons escale dans le quotidien de Junior qui cumule études et activités commerciales. En innovation, on fait un focus sur Doulou pour se déplacer. Au Mali, le blocus économique des djihadistes paralyse le corridor Dakar-Bamako. On en parle dans Afrique Économie.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue en Classico. On parle de dette ce matin avec notre expert puisque le lundi, on parle d'économie et on a voulu savoir ce que c'est qu'une dette flottante. Et pour la réponse, bien entendu, on se tourne vers notre expert, Lucas Ayé.
L'expert dans Classico.
Dette flottante, qu'est-ce que cela veut dire et surtout comment cela marche? Où en est le Cameroun sur cette question? À la question de savoir qu'est-ce que signifie la dette flottante, nous dirons tout simplement que la dette est un mot qui rassemble plusieurs catégorisations. Et en cela, nous avons ce que nous appelons le plus souvent la dette intérieure et la dette extérieure. Et nous avons également la répartition en dette conventionnelle et dette flottante. C'est tout cet ensemble qui constitue le terme générique de la dette publique. Mais selon le manuel de statistiques des finances publiques, vous avez l'un des nombres, précisément 5 ou 6 catégories de dettes. Finalement, la direction en charge de la dette publique ou bien le service en charge de la dette publique s'occupe spécifiquement de ce que nous appelons dette contractuelle, à savoir la dette qui est basée sur un accord ou une convention, ou soit sur un titre public. C'est ce que nous appelons couramment dans notre jargon dette publique qui est manifestement établie sur ou apparu sur les statistiques. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la dette flottante. C'est spécifiquement la partie de la dette publique qui n'est pas consolidée, c'est-à-dire qui n'est pas représentée par des titres à moyen ou à long terme. Et à cet effet, la dette flottante regroupe l'ensemble des bons du trésor auxquels s'ajoute, dans une définition large, l'endettement de l'État sous forme d'avance consentie par l'institut d'émission et même des dépôts effectués au trésor par ses correspondants. Autrement dit, il s'agirait d'engagements dus par l'État à un certain moment donné, issu de l'exécution du budget à partir de la commande publique. C'est ce qu'on appelle vulgairement la dette fournisseur. Et c'est ce que les gens appellent communément la dette intérieure. Alors que pour nous les spécialistes, en fait, la dette intérieure au niveau des services en charge de la dette, c'est la dette contractuelle ou ce titre dû à des agents résidant sur le territoire national. Et lorsque nous avions dit la dette flottante représenterait les engagements issus de la commande publique qui sont arrivés à échéance et qui sont dans le circuit de paiement, cela signifie que la facture du fournisseur a franchi toutes les étapes et est arrivée au niveau du trésor pour paiement, mais n'est pas encore payée. Cette latence fait que l'on appelle ces cette facture-là de la dette flottante. Et à la question de savoir comment est-ce que marche ou évolue une dette flottante, pendant longtemps, la dette flottante a paru inquiétante tant en raison des risques que faisait peser sur la trésorerie de l'État la perspective d'un remboursement massif que du caractère inflationniste que revêtait le recours à ce type de financement pour les charges publiques. Historiquement d'ailleurs, les périodes où elle a connu les plus forts développements ont été caractérisées par une dépréciation monétaire marquée. C'est pourquoi, tant au 19e siècle qu'au début du 20e siècle, les systèmes d'amortissement de la dette flottante proliféraient dans la plupart des grands pays. À l'image du sinking fund britannique qui comportait généralement une affectation budgétaire. Nous pouvons également souligner des fonds d'amortissement américains dotés de ressources fiscales pour amortir chaque année un certain pourcentage de la dette. Et nous parlons également la caisse d'amortissement française dont l'exemple le plus célèbre est constitué par la caisse autonome d'amortissement de 1926, mise en place par Poincaré et qui fonctionna jusqu'en 1959, disposant de ressources propres. Le produit du monopole des tabacs et même des allumettes notamment. Et cette dernière avait pour tâche d'assurer la consolidation des bons de la défense nationale émis à l'occasion du premier conflit mondial. Et au cours des années immédiatement postérieures pour financer l'effort de guerre et aider la reconstruction spécifiquement établie de l'économie française. En grosso modo, par rapport au contexte camerounais, en octobre de l'année 2022, si j'ai bonne mémoire, le sieur Lupo Motazé, ministre en charge des finances du gouvernement camerounais, s'est fendu dans un communiqué. Et dans ce manifeste, il invitait les agents économiques et autres prestataires de l'État reconnaissant avoir déposé une requête auprès du ministère des Finances afin de rentrer en possession d'une créance due par l'État et à se rapprocher également de la direction générale du budget, en abrégé DGP, pour confirmer cette dette. Deux années plus tard, la direction générale des impôts veut donc rompre avec ce procédé en numérisant le processus d'enregistrement des requêtes. Et à ce sujet, je crois que la direction générale des impôts, la direction générale du budget, pourtant, autant pour moi, pardon, placée sous la tutelle du ministère des Finances, a mis donc sur pied une application basée Debt Control System, en abrégé DECOSIS. Et en quoi cette direction? Je crois que la DECOSIS a été créée dans le but de faciliter les opérations de consolidation et de suivi des dossiers de la dette flottante entre l'État et les autres entités publiques d'une part et les co-contractants de l'État d'autre part. En outre, DECOSIS permettra de disposer d'une information complète sur ces dossiers et produit des états de suivi de la dette. Basé en fait, DECOSIS est basé en fait sur une technologie web et c'est un outil qui a été mis en place grâce à la méthode itérative qui permet de mettre en exploitation les données relatives à la dette flottante. Et elle met en exergue une application module par module et de manière à ce que les informations sont évaluées suite à des tests unitaires concluants effectués par les utilisateurs. Et l'accès à des courses est conditionné par la saisie d'une adresse fournie auprès de la Direction Générale des Impôts dans un navigateur Chrome et Firefox sur la plateforme d'Ecosys. Les requérants ont la possibilité de s'enregistrer et de préciser la nature de la dette réclamée et même l'identité de l'entité publique débitrice. Et le dossier ainsi rempli est par la suite transmis par bordereau créé à l'aide des numéros de dette à la Direction Générale du budget. Et cette structure est convaincue que DECOSIS va permettre d'améliorer la gestion de la dette et réduire de façon significative les plaintes éditées à cet effet. La dette flottante découle des engagements pris par les entités publiques vis-à-vis des contribuables et qui n'ont pas subi un traitement complet, c'est-à-dire l'ordonnancement, la prise en charge et le paiement. Ces engagements qui devaient être reportés à l'exercice suivant ne sont ni priorisés par l'ordinateur dans la consommation des crédits de paiement, ni par le comptable public pour les paiements. La conséquence est que ces crédits s'accumulent au fil des exercices budgétaires, créant ainsi une accumulation du stock d'arrêt des personnes personne de droit public, ce qui occasionne de façon implicite une dette dite flottante, dont le montant n'est pas toujours maîtrisé par les structures chargées de sa gestion, à l'opposé de la dette structurée qui, elle, est gérée par la Caisse autonome d'amortissement et le ministère en charge de l'économie et de la planification. Mais maintenant, à la question de savoir où en est le Cameroun sur cette question, je dirais tout simplement que l'opération de recensement et d'audit des aériens de l'État et de ses démembrements pour la période 2000-2019 quitte par le gouvernement a livré ses résultats récemment. Et il savait donc que les statistiques dénombrent 47 597 dossiers relatifs, entre autres, aux indemnisations, aux aériens de salaire, aux baux locatifs ont été rejetés. Dans une publication datant du 19 août dernier, le ministère des Finances, via la Direction générale du budget, a donc évoqué plusieurs raisons justifiant le rejet des 10 dossiers. Certains ont été déclarés non conformes, d'autres déjà payés ou hors de la période de référence pour la plupart. Et à cet effet, je crois que le ministre avait déjà dit que cette opération qui visait les dettes non structurées, regroupées sous le vocable de dette flottante, réclamée par des tiers vis-à-vis des administrations centrales, des établissements et des entreprises publiques, des organismes de mission de services publics, ainsi que les collectivités territoriales décentralisées, a permis d'établir ou d'estimer un montant de 671,7 milliards de francs CFA, le montant de la dette flottante validée. Et nous disons tout simplement à l'endroit des auditeurs auditrices de volume 3 que dans ce montant, la part des administrations centrales est estimée à 461,5 milliards de francs CFA. Celle des entreprises et établissements publics est estimée à 194,4 milliards de francs CFA contre 15,7 milliards de francs CFA pour les collectivités territoriales décentralisées. Mais de façon explicite, la dette salariale essentielle portée par les administrations publiques s'élève à 303,3 milliards de francs CFA. Et la dette fiscalo-douanière, quant à elle, est estimée à 215,8 milliards de francs CFA portée majoritairement par les entreprises et établissements publics. Et la dette commerciale, quant à elle, s'élève à 121,6 milliards de francs CFA. Tandis que la dette académique est de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. Et la dette locative est estimée à 9 milliards de francs CFA. La dette sociale, quant à elle, est de l'ordre de 5,6 milliards de francs CFA. Et 410,4 millions de francs CFA concernent les indemnisations. Par conséquent, nous observons que 4 mécanismes ont été mis en place pour l'apurement de la dite dette. Et dans un premier temps, les dettes académiques, locatives, sociales et les indemnisations, compte tenu de leur succès, seront supportées par le budget de l'État au cours de l'année 2024. Et ensuite, le stock actuel de la dette salariale sera apuré sur 2 ans, c'est-à-dire de 2024 à 2025, à l'exception de celle des enseignants du ministère des enseignements secondaires, à la budget MINESEC et puis du ministère d'éducation de base, dont l'apurement effectif est prévu pour la fin de l'année 2024. Et pour ce qui est de la dette commerciale, son apurement fera l'objet de prise en charge partagée entre l'État qui consacre 70% et les entités débitrices sur la période de 2024 à 2026 qui vont gérer 30%. Et à cet effet, je crois que l'État accompagnera les entités publiques débitrices en prenant en charge la totalité de la dette fiscale et douanière sur une période étalée sur 7 ans à compter des exercices budgétaires 2025. Et à cet effet, les auditeurs auditrices de volume 3 devront savoir que l'opération du ministère des Finances intervient au lendemain de la levée par le Cameroun en temps pour moins de 550 millions de dollars, soit 335 milliards de francs CFA à l'international. Et selon les pouvoirs publics ou le gouvernement, l'argent ainsi mobilisé devra servir au financement de certains projets inscrits dans la loi de finances de l'exercice en cours. Je crois que ainsi que qu'à l'apurement de la dette intérieure a l'effet de booster, je crois, l'activité économique du Cameroun. C'est ainsi qu'un véritable ouf de soulagement ou bien une bouffée d'oxygène Cela représenterait un loop de soulagement ou bien une bouffée d'oxygène pour de nombreuses entreprises locales qui ont été longtemps confrontées au retard de paiement de leurs prestations. Pour remédier à cette situation, le président de la République, son Excellence Mobia, a récemment signé un décret habilitant le ministre des Finances à recourir à des emprunts sur les marchés financiers domestiques et internationaux, dont les montants respectifs sont estimés à 280 milliards et 336 milliards, cumulés à 616 milliards de francs CFA. Les résultats de l'opération de recensement et d'audit des arriérés de l'État et de ses démembrements pour la période 2019 sont disponibles. Et cela même a été communiqué, je crois, à travers un acte administratif datant du 16 août 2024 venant du ministre des Finances, précisant qu'à l'issue de la dite opération qui visait les dettes non structurées regroupées sous le vocable de dettes flottantes réclamées par des tiers vis-à-vis des administrations centrales, c'est-à-dire sectorielles, ministérielles et autres administrations centrales assimilées, les établissements et entreprises publiques, ainsi que les collectivités territoriales décentralisées, autant pour moi, le montant total validé s'élève effectivement à 671,7 milliards de francs CFA. Et je crois même que dans une lettre circulaire signée le même jour, c'est-à-dire précisément le 16 août 2024, le ministre des Finances précise les modalités d'appurement de la présente dette flottante selon les principes suivants. Dans un premier temps, les dettes académiques, locatives, sociales et les indemnisations, compte tenu de leurs spécificités, seront supportées par le budget de l'État au cours de l'année 2024. Le stock actuel de la dette salariale sera appuyé sur 2 ans, de 2024 à 2025, à l'exception de celle des enseignants du MINISEC et du MINEDUC, c'est-à-dire respectivement le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'éducation de base, dont l'appurement effectif est prévu pour la fin de l'année 2024. La dette commerciale, quant à elle, fera l'objet de prises en charge partagées entre l'État, c'est-à-dire 70%, et les entités débitrices, 30%, au cours de 3 années à compter de l'année 2024 à 2026. Et l'État accompagnera les entités publiques débitrices en prenant en charge la totalité de la dette fiscale et douanière sur une période espacée sur 7 ans à compter des exercices budgétaires 2025.
L'expert dans Classico. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Merci à notre expert qui nous a parlé de la dette flottante ce matin. 10h32, il est temps d'entrer dans un monde entrepreneurial. Et aujourd'hui, vous vous demandez certainement qui est notre passager ou notre passagère du jour. Je vous laisse le découvrir.
Notre passagère du jour est une amoureuse de pagne qu'elle a décidé de mettre en valeur dans ses créations. Une aventure qu'elle a commencée avec des accessoires qui peu à peu s'élargit. Donc, activité qu'elle a commencée au début en ligne a aujourd'hui une adresse dans la ville de Douala. C'est l'histoire de cette jeune qui a trouvé sa voie après une rencontre dans la foire que nous explorons aujourd'hui. Là, c'est quoi le plaisir de recevoir Marilyn Peggy Nombou, promotrice de Zinou Création. Bienvenue à bord.
Le passager du jour dans Classico.
Merci Viali pour cette présentation. Vous l'avez donc compris, on va parler d'accessoires aujourd'hui avec notre passagère du jour, Marilyn Peggy. Je constate que Viali a évité de prononcer. Déjà, on dit guanwo ou guanvo.
Guanwo.
Voilà, c'est pour ça que Viali a esquivé, il a pris le nom pour ne pas écorcher, parce que il vaut mieux éviter pour se retrouver dans les histoires. Bienvenue chez nous.
Merci.
Bah, c'est un plaisir de vous recevoir. Je vous trouve très, très solaire.
Ah, merci.
Voilà. Maintenant, moi, quand j'ai vu le nom, déjà, première interrogation, ça veut dire quoi, Zinou?
Zinou, ça veut dire... Zinou, ça veut dire intelligent en langue ferfait.
Ah, c'est le féfé.
Oui, c'est le féfé.
Ah, vraiment. Je n'étais jamais passée à côté de... Pourquoi justement ce nom-là?
Quand j'ai écrit, je voulais...
Faut vous rapprocher du micro, s'il vous plaît.
Je voulais en fait un nom atypique qui reflète ce que je voulais, genre les racines africaines. Mm-hmm. Et quand je suis allée sur l'alphabet, sur les langues, puisque je suis de Bafang, dans ma langue nationale... maternelle, ça me fait. Et j'ai vu Zinou, ça m'a parlé, c'était beau, c'était atypique, ça avait les lettres avec les traits très là. Ça m'a fait, j'ai dit c'est ça que je veux pour ma marque.
D'accord. Il paraît que c'est une rencontre à une foire qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale là. Il faut bien raconter l'histoire aujourd'hui.
Exactement. En fait, la rencontre, c'était avec une jeune fille. À l'époque, j'étais encore étudiante. Elle était presque mon âge, mais je me suis dit, mais si elle peut faire tout ce dont elle rêve, pourquoi moi je peux pas? Et je peux dire son nom, c'est Lucille Menen.
Ah oui, Lucille, oui.
Lucille, oui. Aujourd'hui, elle se lance dans la musique.
Oui, ça, je vois, elle a toujours eu cette double...
C'est elle, en fait, qui était le point focal. C'est elle qui m'a... Quand je l'ai vue, j'ai dit, ça va, ça y est.
C'est quoi, vous avez eu le temps d'échanger avec elle pour qu'elle parle un peu des réalités et tout ça?
J'ai longtemps échangé avec elle. J'ai échangé avec elle, j'ai acheté ses articles. Je suis restée dans son stade peut-être 2 heures de temps.
À juste observer.
Oui.
Ok, d'accord.
Du coup, c'est ça qui m'a...
Et avant cette rencontre-là, vous vous destiniez à quel métier, quelle profession?
Avant, quand j'étais petite, c'était hôtesse de l'air.
Mais après, les grands rêves.
Mais après, j'ai fait les études de logistique. Donc, je suis ingénieure en gestion. Et j'ai eu à exercer ma profession. Mais après, bref, je savais toujours qu'il fallait que je fasse de l'entrepreneuriat. Parce que être salarié, ça ne peut pas me rendre financièrement indépendante comme je veux. Et étant une amoureuse du pain, comme vous l'avez dit, depuis toute petite, la publicité Vlisco, je perdais la tête avec ça. J'ai décidé que je vais me lancer et c'est avec le pain. Donc créer des accessoires et des vêtements avec le pain.
D'accord. Avant de vous lancer quand même, vous aviez déjà confectionné des choses par vous-même ou bien entre le moment où vous rencontrez Lucille, vous décidez qu'il faut quand même que j'apprenne, même si ce n'est pas ce que je vais faire tout de suite?
J'ai appris. Mais ce n'était pas tout de suite. J'ai appris. Et je faisais d'abord les petits accessoires, les bandeaux, les chichis, tout ça. Tout ça,
on peut essayer tout seul.
Voilà.
Et tout ça.
C'était les trucs que je faisais toute seule. Je faisais et... C'est après que j'ai décidé qu'il faut que je lance.
Justement, qu'est-ce qui vous a finalement décidé? Puisque quand même, oui, entre le moment où vous êtes inspiré par une jeune comme vous qui se démarque dans ce domaine-là, et puis vous avez fait vos études, vous avez quand même commencé à travailler. Qu'est-ce qui fait que finalement vous vous dites, ok, c'est bon, je laisse tomber cette affaire de logistique et puis je vais vraiment me mettre dans l'entrepreneuriat?
Bon, je n'ai pas laissé... Du coup, j'ai pas laissé. Et quand je travaillais, je faisais à côté un peu, mais c'était pas vraiment ça, juste un peu. Et après, vous savez, j'ai travaillé dans le BTP. Le BTP, c'est il y a le marché, après il y a plus le marché est fini.
Oui.
Vous allez au quartier. Et puis quand je sentais que les travaux veulent finir, vous savez déjà que la fin des travaux, ça va être, vous savez que vous allez être au quartier. Du coup, j'ai anticipé, il fallait pas que je reste au quartier.
Oui.
Et c'est là où j'ai commencé vraiment à dire que si le travail finit, il faut que j'ai quelque chose à main. C'est là où j'ai commencé vraiment à mettre le point sur la marque.
D'accord, la formation, vous l'avez faite ou chez quelqu'un d'autre qui faisait déjà dans le même métier, ou bien c'était aussi, non, ceux qui regardent les vidéos et puis ils savent comment il faut faire?
Les vidéos aussi, j'ai regardé, mais j'ai eu une petite formation aussi avec quelqu'un qui faisait déjà.
Oui.
C'est vrai que ça n'a pas trop duré, mais bon, parce que après...
Ça vous a quand même donné les bases.
Oui, exactement, ça m'a donné les bases. Après... Aujourd'hui, par contre, je ne fabrique plus moi-même.
Vous travaillez avec des artisans.
Oui, je travaille avec des artisans.
C'est plus facile de coordonner.
Voilà, c'est plus facile. Je préfère qu'il y ait la chaîne.
Mais déjà, c'est en dehors des chouchous et tout ça, quel est le premier accessoire que vous avez vraiment testé vous-même, par vos mains, avant de dire que oui, ça, vous pouviez le faire?
La pochette. Pochette et l'éventail. Les pochettes et l'éventail. Où j'ai essayé, j'ai dit non, ça, c'est bon. Si je peux faire ça, ça veut dire que les autres, je peux aussi les faire.
Non, vous les avez encore ou bien non? Quand on a fait, on a vendu.
Non, je les ai plus, j'ai vendu.
Donc c'était vendable, c'était pas le style de non, il faut qu'il m'accache encore.
Non, c'était vendable.
D'accord. Justement, quand on a fait des études, qu'on travaille quand même dans un secteur, du moins du regard des autres, on pense qu'on a accès à beaucoup d'opportunités et qu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que dans l'entourage on réagit? On vous dit celle-là, elle n'a pas de direction ou elle n'a pas de vision, comment ça s'est passé?
Et ça ne vient pas déjà de loin, de ta propre famille en fait.
Mm-hmm.
Ma mère, c'est quoi ça? Surtout quand j'ai commencé avec les chouchous, avec tout ce que tu as fréquenté, c'est pour faire les chouchous, tout ça. Ma grande soeur, c'était grave. Tout le monde, personne ne comprenait où j'allais. Alors que moi, j'avais ma vision, je savais exactement ce que je faisais, je savais par où il devait passer, par où je devais passer pour y arriver. Donc, c'était pas du tout facile. Même jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui ne comprennent pas.
Ouais.
Dépose les dossiers, il faut postuler. J'ai dit non, je ne vais pas postuler. Je sais ce que je veux et je sais comment je vais y arriver.
Comment on trouve, on va dire quoi, la force de rester focus dans ce contexte-là? Parce que c'est quand même quotidien. On fait des remarques quotidiennes. Quand il y a un peu le foirage, on se tourne vers qui? Alors qu'on va dire qu'au lieu d'aller travailler, tu as choisi de collecter l'épargne.
Ah ça, le foirage, quand ça me touche, il n'y a personne. Je gère seul.
On ne peut même pas se confier parce qu'on a dit qu'il fallait aller chercher le travail.
Il faut assumer le fait que certaines personnes t'appellent déjà. Tu es seul, tu as décidé, donc il faut continuer.
Mm-hmm.
Et il faut assumer. Bon, la force, je suis une guerrière. Je me dis, je n'ai pas le droit de baisser les bras.
Mm-hmm.
Si j'ai dit que je vais avancer, avance, peu importe.
D'accord. Comment est-ce que vous avez planifié, justement, vous saviez ce que vous voulez faire? C'est quoi les différentes étapes? On confectionne d'abord, ensuite on essaye de trouver un marché, on confectionne une pièce et puis on essaye de faire un peu, de faire passer le message. Comment est-ce que vous avez construit, dis-nous, de bout en bout?
De bout en bout, ça a commencé par les petites confessions.
Mm-hmm.
Petit marché, j'ai commencé à poster sur le net.
Oui.
Ça commence, c'est parti sur le net et un peu petit à petit, il y a eu la demande, un peu petit à petit et puis... Et après, j'ai commencé aussi à faire des foires.
Mm-hmm.
J'ai fait la FIAC.
C'était la première foire, ça,
oui,
celle-là?
Ça, c'est ma première foire.
2023, quelque chose comme ça?
Exactement, en 2023. Et pour faire la FIAC, ça a été tellement, c'est...
Qui vous en parle? Comment est-ce que vous vous dites que oui?
J'ai vu la publicité de la FIAC. Peut-être dans les années 2022, quand j'étais à la maison, après le boulot, j'étais à la maison. J'ai dit que je dois faire la FIAC.
Mm-hmm.
Je dois faire la FIAC.
C'était première exposition grand public.
Oui. Le stand, avoir le stand, c'est pas cadeau.
Mm-hmm.
J'ai dit, je m'en fous, mais je dois faire le stand,
la
FIAC. Je ne sais pas vraiment jusqu'ici comment les moyens sont parvenus, mais bon. Après, j'ai quand même réussi à faire la FIAC.
Mm-hmm.
Et quand j'ai réussi à faire la FIAC, j'ai dit que bon, c'est lancé.
Quand on se prépare à participer à quelque chose comme la FIAC, je pense qu'à ce moment-là, vous étiez encore seul à tout faire. Comment est-ce qu'on se prépare au niveau stock? On s'y prend combien de temps à l'avance? Est-ce que vous aviez tout vraiment prévu pour tenir?
Je n'avais pas vraiment prévu. J'avais prévu beaucoup. Je savais qu'il me fallait beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Mais niveau stock, J'ai travaillé avec les artisans aussi parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Parce que quand j'ai eu l'argent, il n'y avait plus le temps pour tout fabriquer.
Mm-hmm.
Ouais, du coup, j'étais obligée d'aller vers les artisans et on a travaillé.
Mm-hmm. Et ça s'est bien passé, cette FIAC-là?
La FIAC-là ne s'est pas très bien passé.
Donc, vous avez plus perdu que vous n'y avez gagné? Ou bien au moins faire connaître la marque, c'était le premier objectif?
Voilà, exactement. Faire connaître la marque, c'était le premier objectif. Moi, je dis toujours, on ne paye jamais.
Mm-hmm.
Si tu te fais, tu as des contacts, les gens t'ont vu, c'est bon. C'est vrai que côté financier, c'était pas trop ça, mais c'était pas...
Ça fait partie des désillusions de l'entrepreneuriat.
Exactement.
Est-ce que justement, pour ceux qui éventuellement découvrent aujourd'hui, vous pouvez présenter Zinou à nos auditeurs?
D'accord. Zinou, c'est une marque africaine, camerounaise, qui fait dans la confection et la commercialisation des produits africains.
Mm-hmm.
Vêtements, sacs, accessoires, avec du pain.
Mm-hmm.
Donc, C'est un peu ça.
D'accord. On a des bijoux aussi quelque part à côté.
Oui, il y a des bijoux.
Ok.
Des bijoux.
Non, vous ne verrez sur nos publications que les sacs. C'est ce qu'elle a pu ramener en studio. Parce que si vous portez aussi toute la boutique, ça peut être compliqué. Exactement. Quand on sait que les marques qui se déploient dans le domaine du pagne, et ceux qui ont la critique de dire que oui, le pagne, c'est pas africain, le wax, c'est pas africain. Comment est-ce qu'on s'en sort dans cet univers-là, entre ces critiques-là et oui, j'aime le pagne quand même, ça nous représente un tout petit peu, même si originellement, ça vient pas de nous.
Ouais, et les critiques, ça vient tous les jours. Oui, tu dis que tu défends l'Afrique. Oui, tu dis que tu défends, mais le wax, c'est pas africain. Oui, c'est pas africain, mais comme tu l'as dit, ça fait quand même partie de... On a grandi avec ça. Mm-hmm. Ça fait quand même partie de nous. Mais n'empêche que on valorise aussi nos propres pagnes comme le ndop. J'ai beaucoup d'accessoires et de vêtements avec le ndop. Mm-hmm. Et j'attaque aussi le kente. Mm-hmm. Donc... petit à petit,
on monte en gamme.
Oui.
Parce qu'il y a aussi cette affaire de demander les tissus de chez nous. Ils ne coûtent pas 1000 francs.
Exactement. C'est ça, en fait.
Quand on commence à aller sur Ndop, la plupart du temps, les prix triplent. Surtout si on utilise le vrai.
Oui.
Et après, le Kente, ce n'est pas donné non plus.
Exactement.
Vous faites aussi quoi? Le jute, le raffia. C'est quoi toutes les matières avec lesquelles vous travaillez?
Les jutes. Mm-hmm. Le raffia, un peu, pas trop. Le raffia, c'est à la demande. Mm-hmm. Si le client précise qu'il veut le raffia, mm-hmm. Il y a la gite, le pagne, le bois.
D'accord.
Oui.
Ah oui, on peut voir les manches, les hanches en bois, oui. Mm-hmm.
C'est ça, en fait.
D'accord. Au début, c'était une aventure qui a commencé avec des accessoires. Mais aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a aussi des vêtements. Est-ce que c'était vraiment une suite logique? Pourquoi ne pas être resté seulement dans les accessoires? Ou bien c'était la demande de « je veux bien le vêtement qui va là avec ce sac » qui vous a fait embrasser ce pan-là? Ou bien c'était dans votre plan, en tout cas?
C'était dans mon plan. C'était dans mon plan depuis. Et je pense même que... Et les vêtements qui vont avec les sacs, quand on met le tout ensemble, ça fait too much. Donc je préfère que quelqu'un s'habille normalement en modèle s'il veut, et puis qu'il ajoute un petit accessoire de pagne pour casser et pour là ça fait plus moderne, ça fait plus chic.
D'accord. Pour revenir à la question du pagne, quand on le travaille, on sait également que sur le marché, il y a, en matière de pagne, plusieurs paliers. Il y a, on va vous dire, vous pouvez trouver autant un pagne qui coûte 3 000 qu'un pagne qui va coûter 12 000. Comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre ce que vous voulez offrir à vos clients et, on va dire quoi, la bataille des prix avec les commerçants sur le marché pour que, quand même, chacun tire son épingle du jeu? C'est la partie la plus difficile, achat de pagne et tout ça, négocier, ou bien maintenant que vous travaillez avec des gens et puis ça va?
Non, la partie la plus difficile, c'est le choix même des motifs. Ouais, parce que négocier, si je lance une collection, je sais à peu près quel type de pagne je vais. Vu que je suis sur le marché, je sais déjà les différents types de pagne. Je sais, quand je lance une collection, je sais exactement quel type de pagne adapté à cette collection.
D'accord.
Par exemple, si je lance une gamme,
oui,
ou alors une collection qui va dans les 20 000 et poussière, je sais quel type de pagne utiliser.
Ah, d'accord. Donc les collections, c'est plus quoi? C'est plus en fonction du prix qu'on veut afficher après, ou bien c'est non? On suit un peu les tendances. Cette saison, c'est le fourre-tout. La saison dernière, c'était les bananes. Comment est-ce qu'on détermine justement dans quoi on va se lancer en termes de production?
En termes de production, déterminer.
Quelle est la prochaine collection? Est-ce que ce sera les bananes? Est-ce qu'on va sur le motif des femmes africaines, comme il y a eu beaucoup la tendance des sacs à main avec les motifs de chapeaux, de dames africaines? Comment est-ce que ça décide? On suit juste la tendance ou bien non?
Et en fait, la tendance même, je n'aime pas suivre la tendance. Mm-hmm. J'aime rester atypique. C'est pour ça que vous allez même voir les sacs africaines que j'ai n'ont pas les mêmes manches que les autres. Mm-hmm. Parce qu'il y a déjà... une différence entre les manches. Les autres manches, bon, c'est pas la publicité,
la critique, mais vous parlez de la particularité de votre produit.
Exactement. Les manches sont plus solides et plus résistantes par rapport aux autres manches. Mm-hmm. Voilà. Et la deuxième question, c'était...
Comment est-ce qu'on détermine finalement quelle va être la collection?
Voilà. Par rapport à la demande. Je sais qu'en décembre, par exemple, comme c'est les fêtes qui approchent, il faut avoir... Les gens sont beaucoup plus dans les cadeaux à offrir. Mm-hmm. Et maintenant, s'il y a des articles qui sont beaux et bien, ils ne vont pas spécifier je veux telle chose, je veux telle. Il faut juste avoir le stock de plusieurs. Maintenant, on peut dire pendant les vacances, c'est plus les bananes, parce que les jeunes vont utiliser pour.
Et les voyageurs et tout ça là. Ok, d'accord. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à trouver tout ce dont vous avez besoin sur place à Douala, ou bien en fonction, il y a des matières de... Bon, on va parler des fermetures et tout ça qui doivent venir de, je sais pas, d'autres villes du Cameroun, par exemple.
Donc, j'arrive à tout trouver sur Douala.
Ok. Les mêmes fournisseurs tout le temps, ou bien on doit changer aussi, parce que très souvent il y a des ruptures de stock.
C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs fournisseurs. J'ai déjà pris le temps de faire tout ça avant, dans les années précédentes.
Donc aujourd'hui, ce n'est plus un problème. S'il n'y a pas chez tel, vous savez exactement chez qui aller prochainement. Aujourd'hui, donc, comment le travail s'organise, puisque vous avez dit que vous n'êtes plus vraiment à la production, peut-être pour venir superviser. Vous travaillez avec combien d'artisans? Est-ce qu'ils sont tous au même endroit, ou chacun est indépendant dans son atelier? Il faut faire le tour pour contrôler et tout ça.
Ouais. Chacun est indépendant dans son atelier. Il faut faire le tour. Il faut. Le problème, l'avantage, c'est que on ne lance pas toutes les collections au même moment. On peut lancer cette collection-ci avec cet artisan précis.
Okay.
Et puis, ça sera facile de coordonner avec lui. On peut venir sur le terrain, superviser, filmer la production, voir ce qui ne va pas. Et puis, donner les corrections s'il faut. Après, c'est facile. Maintenant, si c'est une autre production avec l'autre artisan, on fait pareil.
Ah, d'accord. En fonction des productions. Donc, si c'est les sacs à dos, il y a un artisan en particulier avec lequel vous travaillez. Oui. Si c'est les sacs à main, si c'est des bananes, c'est comme ça qu'on répartit. Il a le marché sur ce produit-là, et vous venez juste superviser.
Oui, mais pas complètement. C'est pas complètement quand même.
Donc quoi, vous faites des modèles que vous lui donnez?
Oui, il travaille. Ça dépend. Et maintenant, en fonction du résultat, je peux décider que, bon, lui, si par exemple les bananes ne les fait pas très bien, je confie à un autre artisan. Ouais, ainsi de suite.
Ok, d'accord. On va revenir tout à l'heure dans la deuxième partie. Je sais que vous attendez. Vous allez nécessairement voir les photos sur les réseaux. On va vous parler des différents accessoires que vous pouvez retrouver chez Nzino Yessi pour les vêtements. On va nécessairement parler de prix et de points de vente. On va marquer la pause et puis on revient juste après.
Classico.
Pause. Classico se passe aussi sur notre application Volume 3 Cameroun. Volume 3 Cameroun. Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Le passager du jour dans Classico.
On poursuit notre échange avec notre passagère du jour, Marilyn Peggy Ngwombo, qui est donc promotrice de Zinou Création. On va revenir un tout petit peu à la panoplie d'accessoires ou de tout ce que vous proposez sous votre marque. Et bien entendu, sur la partie là, on donne un peu les prix pour que les gens se fassent une idée avant d'arriver. C'est toujours mieux de savoir que si j'ai 5 000, je peux arriver là-bas, on me donne même un gros photo comme ça, sait-on jamais. Donc, dans ce que vous proposez, qu'est-ce qu'on retrouve?
On retrouve les sacs à main, les sacs bananes, les photos comme vous l'avez dit, les sacs à dos, les bandoulières hommes.
Oui. Pourquoi hommes? Qui a mis le sac sur ça?
Hommes et femmes, vraiment.
Oui.
Il y a les bandoulières hommes et femmes. Les sacs pour ordinateur.
Ok. En termes de sacs, c'est tout.
Oui.
On peut avoir quoi? Il y a des colliers, des boucles.
Il y a des colliers, des boucles customisées avec le pagne fabriqué aussi. En termes de vêtements, on a les pantalons, des culottes, des boubous.
Ok.
Des ensembles boubous hommes également.
Ok. Pourquoi hommes seulement? Les femmes n'ont pas. Ensuite, des pantalons, ça ne concerne pas les femmes?
Ça concerne les deux.
Ok, d'accord. Des ensembles. Du coup, pour les sacs à main, c'est quoi la fourchette de prix en fonction de la taille et de la taille du sac?
Les sacs à main vont de 10 000 à 25 000.
De 10 000 à 25 000. Que 10 000 qui est 25 000 comme ça? Pour que moi, ici, je visualise une fois.
Ici, c'est 10 500.
Les... 500, c'est pour quoi? C'est pour la corde du sac. Donc, 10 500. Vous êtes marié, ça participe. Je suis exactement comme celle qui vient à la fois discuter les prix là.
10 500, ça rentre dans le coup.
Ok.
Ça rentre dans les coups.
D'accord. surtout les fourre-tout, on est à combien? Ou bien les fourre-tout, on les prend en fonction du tissu aussi qu'on a utilisé?
Non, les fourre-tout, il y a les fourre-tout de 10 000, les fourre-tout avec les têtes là.
Ça?
Les fourre-tout avec les têtes, oui, okay, sont ça... à 10 000.
Ok.
Maintenant, les fourre-tout, ceci,
mm-hmm.
c'est à 15 000.
D'accord.
Les sacs avec les
lances en bois
sont à 17 000.
D'accord.
Les sacs à dos, on a les sacs à dos.
On a l'autre joli petit voilà. sac qui fait un peu comme un sac de voyage. Pour les week-ends.
Oui, pour les week-ends, vraiment.
Il est
à... Les sacs voyageurs sont à 16 000.
D'accord.
Sac à dos, 10 000. Avec la trousse à l'intérieur.
Le sac à dos qui est là-bas derrière, oui. c'est 10 000. Oui. OK.
Avec la trousse à l'intérieur.
Ah.
Maintenant, les petits sacoches.
Les bananes.
Les bananes et mm-hmm. les bandoulières sont à 5 000.
D'accord, les bananes et les bandoulières à 5 000. Donc, vraiment, si vous cherchez un cadeau
spécial
qui ne va pas vous coûter la peau des fesses, peut-être, pour, si vous avez quelqu'un qui aime les bananes. Et pour les sacs d'ordinateur?
Les sacs d'ordinateur sont à 15 000.
Peu importe, c'est taille classique ou bien on a pour les plus petits, pour les plus grands?
Taille classique, c'est okay. taille classique.
15 000.
Oui.
D'accord. Et au niveau des bijoux, c'est, ça varie de combien à combien?
Les bijoux customisés avec le point ensemble, collier, boucle d'oreille, chaîne, mm-hmm. 5 000 ensemble.
D'accord. Vous faites aussi les... Il y avait un collier qui chauffait à une époque, là, on avait l'impression qu'il y avait des lianes, on avait des lianes partout sur le corps, comme ça, là. C'était une espèce de collier avec... tissé comme ça avec le pagne et tout ça, vous le faites aussi?
Non, non.
Je ok, d'accord. Vous vouliez préciser
si,
quelque chose?
Si quelqu'un. Le prix de l'ensemble du collier, j'ai fait une erreur. C'est pas.
Mm-hmm, c'est combien?
C'est 10 000.
Voilà. Et moi, j'ai dit. 10 000.
Oui.
Ok. D'accord. Sur les pantalons.
Mais si quelqu'un a un collier spécial qu'il souhaite, mm-hmm. on peut confectionner.
D'accord, c'est pas... Mais à ce moment-là, on reste dans les mêmes coups ou bien...
Non, on ne reste pas dans les mêmes coups.
Ok, donc pour
c'est
les commandes...
C'est une commande spéciale.
Ok. Donc, pantalon, culotte, boubou, les ensembles et tout ça là, c'est quoi le... Ça va de combien à combien aussi?
Les culottes mixtes, hommes, femmes, 5 000 les culottes.
C'est seulement en pagne?
Oui, seulement en pagne.
D'accord.
C'est joli.
Ok.
Les pantalons sont à 10 000.
Toujours seulement le pagne ou il y a d'autres tissus aussi?
C'est mélangé. Il y a les poches en gabardine.
Okay.
Il y a les poches en gabardine. Oui, c'est 10 000.
D'accord. Et quand c'est au niveau des ensembles?
Les ensembles boubou homme ne sont pas... C'est en...
Sur commande?
Non.
C'est pas le pagne?
C'est pas le pagne, c'est le... On appelle ça quoi? Le super 100.
Ok.
C'est le super 100.
Mm-hmm.
C'est à 25 000 pour les hommes.
Ok, 25 000 pour les hommes, les ensembles. Et pour les femmes aussi? Ou bien.
Pour les femmes, il y a les femmes, mais pas c'est pas le spécial, c'est en pagne. Un peu les boubous comme ce que j'ai sur moi,
mm-hmm.
c'est 15 000.
D'accord. Je pense qu'on a essayé de faire un tout petit peu un tour des prix et des articles que vous pouvez retrouver sous la marque Zinou. Justement, l'activité, elle a commencé en ligne, mais aujourd'hui, vous avez une boutique.
Une boutique,
c'est donc, ça. On vient être curieux dans quelle partie de Douala comme ça?
À Kwano.
Où à Kwano?
À Kwano, en face Santa Lucia, à l'entrée du petit marché et Oji.
Donc, on essaye de regarder. Il y a le nom de la oui. boutique inscrit à l'extérieur.
Oui.
Ok, maintenant, pour les jours et heures d'ouverture, pour ceux que ça intéresse éventuellement.
Nous sommes ouverts tous les jours de lundi à samedi de 10h à 17h30.
Même le jeudi où on ouvre à 11h là.
Non, sauf le jeudi où on ouvre à 11h, ouais. Le jeudi, c'est le jeudi propre.
Mm-hmm.
Oui.
Donc de 10h
à 17h30.
De lundi à samedi, sauf le jeudi.
Oui.
D'accord.
Le jeudi, c'est 11h.
De 11h à 17h30.
30, oui.
Ok. On va dire quoi? Est-ce qu'on peut encore, on peut commander, se faire livrer?
Oui.
Dans ce cas, c'est quoi les conditions? On paye à la livraison, on paye avant. Comment est-ce qu'on gère la partie là?
La partie là, c'est que vous pouvez gérer, ça dépend de vous, le client est roi. Vous pouvez gérer à la livraison.
Ok.
Si ça dépend de vous. Ou vous pouvez gérer avant la livraison. Vous pouvez venir sur place, regarder, faire le choix.
D'accord. Avec les livraisons, il n'y a pas le souci de je suis arrivé, j'ai appelé, on ne répondait plus personne.
Non.
Vous prenez encore le risque ou bien ça va?
Non, ça va. J'ai pas encore eu de cas. Je pense qu'il y a déjà. On a déjà conscientisé par rapport à ça.
Ah bon?
Sauf que. Le seul cas que j'ai eu, c'était samedi.
Mm-hmm.
Elle a commandé la veille. le même samedi, elle a dit qu'elle confirme le matin. Elle a confirmé le matin, livraison 14h. 14h, je mets le livreur en route. Elle me rappelle à 14h10 pour me dire qu'elle a annulé. C'est le seul cas vraiment que j'ai eu depuis.
On va dire que vous faites partie des chanceux.
Merci.
Parce que je suis déjà appelée, fatiguée, pour finir. Non, personne n'a jamais décroché. Non, si ça ne vous arrive pas. Du coup, on fait beaucoup plus de ventes en mode livraison ou les gens préfèrent venir à la boutique?
Beaucoup en mode livraison. Beaucoup en mode livraison. Okay. Beaucoup vraiment.
D'accord, ça veut dire que l'activité, elle est quand même florissante parce qu'on sait que quand on quitte en ligne et qu'on commence à avoir un local, il y a forcément plus de charges. Est-ce qu'à ce niveau-là, on balance?
Beaucoup plus de charges. Et quand je vois que, et c'est toujours en ligne que ça, je me demande même pourquoi j'ai pris le local.
Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de venir.
Il y a toujours les gens qui demandent ça, mais quand tu ouvres...
On a l'impression que c'est pas le cas quand on peut venir à un espace physique, même si on préfère quand même toujours commander en ligne. Est-ce que à ce niveau-là, vous vous dites que peut-être qu'un jour vous allez fermer la boutique pour continuer à faire l'activité en ligne ou bien vous allez quand même garder?
C'est vrai que l'idée passe souvent par ma tête, mais bon, on va encore observer, vu que c'est la première année, on va encore observer pour voir si ça peut aller.
Ok, d'accord. Maintenant, au niveau des collections, comment ça se passe? À quelle fréquence est-ce que vous renouvelez? Est-ce que c'est tous les 3 mois ou non, c'est au pif comme ça? Est-ce que c'est organisé à ce niveau-là?
Non, c'est pas vraiment au pif, c'est au niveau du stock. Mm-hmm. Quand on lance une collection, si ça finit rapidement...
On en lance une autre, on ne reproduit pas pour la même collection.
Si, je reproduis souvent pour les mêmes collections. Si ça finit rapidement et que la demande y est encore, on relance la même collection.
Ok, c'est sûr qu'on a toujours les mêmes pagnes disponibles.
Ça, c'est le plus gros problème en fait. C'est le plus gros problème. Mm-hmm. Mais on ne pas forcément les mêmes pagnes. On trouve d'autres pagnes qui sont encore plus jolies et qui sont plus attrayantes.
Il y a des gens, si j'avais acheté ça en rouge, vraiment, je veux la même chose en rouge, je veux pas une autre, je veux exactement le même pagne, c'est pas juste
ça, c'est
à couleur près.
Ça, c'est tous les jours que je... Ma mère a vu ça, elle veut la même chose, il y a ça, non, elle veut la même chose. Et ensuite, dans ce cas, tu expliques, au pagne, il y a plus ce motif, au marché, il y a plus ce motif. Mm-hmm. Mais tu es obligé d'expliquer, de convaincre le client. Mais celui qui se laisse convaincre,
tant mieux.
D'autres qui sont...
C'est
non.
Ok. Par collection, on fait combien de pièces à peu près pour être sûr d'avoir du stock?
À peu près 25.
Donc, dès qu'on lance une production, c'est minimum 25 pièces.
Oui. Il y a des collections qui vont un peu plus. Mm-hmm. Quand je sais que c'est...
Ça va forcément partir.
Oui. Minimum 25.
Donc, en ce moment, on prépare déjà la collection qui va sortir pour Noël pour que les gens, on ait le temps de dire aux gens que voici le cadeau et tout ça là.
On prépare.
D'accord. Ça veut dire qu'on a déjà tous les stocks d'épargne et tout ça pour tout lancer.
Oui. Mais, et ça sera, j'ai envie de... Ce que je veux innover, c'est que je veux mettre déjà la marque.
Mm-hmm. Parce que pour l'instant, c'est pas étiqueté.
C'est pas étiqueté, oui.
Exactement. Oui, mais l'histoire de l'étiquetage qui va faire que le prix des sacs augmente, là, c'est la partie où avec les clients, ça va être compliqué.
Ça va pas beaucoup augmenter.
C'est 100 francs que ça va augmenter. Parce que ça va pas beaucoup, là. Quand celui qui sort pour acheter ne voit pas ça comme ça.
Ça va pas beaucoup augmenter.
Est-ce que vous diriez que l'activité elle est florissante, que ça va aujourd'hui, c'est ce qui vous fait vivre pleinement?
Non.
Ou bien de temps en temps on doit encore chercher 2-3 à côté là, parce qu'il y a quand même d'autres compétences à mettre en valeur.
C'est pas ce qui me fait vivre pleinement pour le moment, mm-hmm. mais c'est florissant.
Ok. Ouais. Dans un environnement où il y a plusieurs artisans justement qui suivent les mêmes tendances, qui se lancent à un moment donné, on a souvent l'impression que tout le monde fait beaucoup de choses. Comment est-ce que vous vous assurez que Zinou soit différent de ce que les autres proposent?
Oui, Zinou est différent avec les finitions. Les finitions sont vraiment différentes. Mm-hmm. Donc les finitions sont... c'est très fun. Très très fun.
Okay.
Les articles de Zinou. Et aussi trop de concurrence. C'est pour ça que je veux commencer à étiqueter.
Mm-hmm. Ouais, parce que bon, j'achète, je mets ma marque dessus, je revends. C'est pas... Je peux le faire, même si c'est votre produit.
Oui.
Pour ceux qui ont déjà des étiquettes, il suffit. Ouais. Vous devenez producteur pour eux et tout ça là.
Ouais.
Justement, quand vous travaillez avec des artisans qui sont indépendants et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné le... Il produit pour sa propre ligne à lui?
Ça arrive tout le temps.
Mais vous gardez les mêmes artisans ou bien quand ça arrive, vous mettez la personne de côté?
on garde, parce que pour le moment, on n'a pas les moyens financiers de privatiser un artisan. Mm-hmm. Du coup, on est obligé de subir.
Donc, il fait quoi? Il reproduit le même modèle, il change juste le pain que vous avez utilisé. Donc, il est libre d'avoir sa propre collection à côté pour le marché.
Ce n'est même pas les artisans, en fait. Ce sont des personnes lambda qui sont...
qui viennent voir l'artisan et disent que ce que vous avez produit pour cette dame...
Je veux la même chose.
Et lui veut l'argent.
Oui, exactement.
Et c'est lui qui a l'expertise.
Et comme on n'a pas...
un contrat d'exclusivité.
Oui.
Donc, c'est souvent arrivé que vous voyez exactement la même chose
oui.
À un détail près, c'est ça?
Oui.
Bon, de toutes les façons, j'ai envie de dire que quand on n'est pas arrivé à la partie protection de marque, c'est un peu, c'est un peu compliqué, c'est un volet qui a son coût aussi. Vous participez encore à des foires quand même depuis que vous avez votre espace ou non?
Pas encore, mais quand la fin d'année arrive, oui, je suis ouverte aux foires. Je suis en train de chercher...
D'accord, il y a plein d'événements qui sont déjà annoncés. Je pense qu'il y en a qui commencent à la fin de ce mois. Peut-être que vous aurez le temps de jeter un coup d'œil. Depuis que vous avez commencé cette activité, vous diriez que qu'est-ce qui est le plus difficile? Ou bien non, c'est facile tous les jours?
Pas du tout. Rien de facile.
C'est quoi la plus grosse difficulté?
La plus grosse difficulté, c'est... Je vais peut-être dire financier ou alors dans le choix des pagnes.
Mm-hmm.
Le choix des pagnes. Il faut avoir l'œil pour trouver le pagne qui va face. Parce que généralement, c'est le pagne qui attire. Mm-hmm. C'est ça qui brille, c'est ça qui attire. Et si tu fais un mauvais choix de pagne, tu vas rester avec le stock.
Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, le regard de la famille a quand même changé? Parce que mine de rien, l'activité a grandi. On a fini de squatter la maison. Maintenant, on a une boutique. Tout le monde peut venir un tout petit peu.
Ouais, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, ma mère, c'est
une cliente ou c'est la commerciale numéro un?
C'est... elle est commerciale, elle est cliente, elle est tout. C'est mon joker.
Mm-hmm.
Alors qu'au départ, c'était pas ça.
Parce qu'elle a vu quand même que sa fille ne crève pas de faim et tout ça, que malgré tout, c'est une activité.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que si jamais, par un concours de circonstances, la marque ne subsiste pas longtemps, vous pouvez retourner à votre, on va dire quoi, à votre ancien métier ou non, vous allez vous donner les moyens pour...
Never. On rêve grand. On rêve grand, donc je voisine très loin.
Ok, nous on va regarder de loin, peut-être de près aussi, pour espérer voir la marque continuer à se déployer. Et on va arriver nécessairement à l'étape de l'étiquetage. Peut-être que dans les 5 prochaines années, ce sera une marque avec une assise, peut-être pas seulement au Cameroun, sait-on jamais. Merci beaucoup, Marilyn Peggy, d'avoir fait les déplacements.
Je vous en prie, merci.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour aller au marché avec Yalingeya.
Le passager du jour dans Classe Éco.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. On a terminé notre échange avec notre passager du jour à 11h26. On va un peu plus vite au marché aujourd'hui et on ne veut pas attirer les abeilles, mais Vialingea nous propose du miel.
Éco-marché, tous unis contre la vie chère.
Le retour d'un voyage à l'ouest le week-end dernier, notre car a fait escale à Melon pour nous permettre de nous dégourdir les jambes. Pendant que d'autres dégustaient avec un plaisir non démesuré les beignets coquilles, une vendeuse s'est approchée de moi, me proposant du miel. Elle disait à qui voulait l'entendre qu'il est de bonne qualité. Sa déclaration a donc lancé la discussion entre les passagers. Durant le reste du voyage, c'était la bataille des affirmations sur le fait que le bon miel vient exclusivement du Grand Nord. Et bien entendu, quand on parle de qualité, chacun a profité pour énumérer les mille et une techniques pour reconnaître le bon nectar. Une fois à Douala, cet échange vif qui avait pris corps dans ce bus m'a donné envie d'en savoir plus sur le miel et de démêler le vrai du faux en ce qui concerne ce produit impérissable. Ne sachant pas vraiment s'il y avait un marché de prédilection pour acheter du miel, je me suis rendu à celui de Bonamoussadi. J'ai fait le tour des comptoirs durant un bon moment sans en trouver. Et alors que le découragement commençait à me gagner, apparu comme sur un coup de baguette magique, je croise enfin le chemin d'un vendeur ambulant qui me parle du miel, de sa provenance et de sa commercialisation.
Je vends le miel du Nord. Le miel du Nord est composé à trois types de miel. Il y a le miel de l'arbre, il y a le miel du sol et il y a le miel qu'on fabrique la caisse, ça attire les abeilles. Oui, tous les miels sortent de la forêt parce que c'est les abeilles qui fait la différence. Parce que les abeilles, il y a deux types d'abeilles. Et dans les abeilles que tu vois là, il y a les abeilles, il y a le miel qu'on appelle le miel sauvage. Le miel sauvage, tu vas retrouver ça dans le tchot de l'arbre, du gros arbre là. Et aussi le miel du sol, c'est ça qu'on appelle le miel sauvage. Et il y a le miel pour la caisse, ça là c'est partout, ça trouvé, bon, même à l'ouest, tu peux fabriquer la caisse et ça attire les abeilles viennent habiter dedans. Bon, pour trouver que c'est le bon qualité ou ce n'est pas le bon qualité, il y a les gens qui testent. Si tu veux, je peux te montrer, tu peux tester le miel avec l'eau dans un verre, par exemple. Tu peux tester avec les allumettes. Tu mets l'eau dans un verre et tu mets le miel traverse l'eau là, ça part rester en bas. Clairement, c'est comme s'il n'y avait rien qui a traversé l'eau. Et pourtant, c'était le produit qui est le faux miel, voilà, qui est composé. Dès que tu mets dans l'eau là, l'eau change de couleur. Tu comprends un peu? Et pourtant, quand c'est le miel, dès que tu mets dans l'eau, ça descend en bas, c'est quand tu secoues que ça change le couleur. Mais si tu n'as pas secoué, ça ne change pas le couleur, ça part rester en bas. Tu mets sur le papier format là, le papier format, tu as le papier format de 25 là. Tu mets sur ça là, toi-même, tu mets le miel sur ça et tu prends par exemple l'eau ou bien l'huile ou bien bon, le produit que tu peux prendre, tu mets aussi sur le même papier, tu vas voir le miel va rester, ça ne traverse pas, ça ne mouille pas. Mais les autres produits là, tu vas voir que ça va mouiller le format là. C'est là où tu vas voir la différence entre le bon miel et le faux miel. Et tu prends les aliments là, tu trempes la. Les boussecs d'allumettes là, tu trempes dedans dans le miel là, clac, tu vas voir ça va s'allumer. Donc tu n'as pas de difficulté pour s'allumer. Je vends un litre à 2500, le petit litre à 1000 francs. Y a la quantité de 1000 francs. Et il y a un litre, il y a un litre et demi, bon, ainsi de suite. Oui, moi, je détaille même à partir de 100 francs. Oui. Et le plus petit chez moi c'est 1000 francs. Et il y a le de 1250, il y a un litre de 2500 et il y a le tangui de 2750.
Je décide de ne pas me limiter à cette intervention providentielle. Dans l'espoir d'en savoir plus, je change de marché en quittant de Douala 5e pour Douala 1er. C'est au marché de New Deido que je me retrouve cette fois. Bondé comme d'habitude, c'est entre les étals de tomates, les cris des vendeuses et les odeurs d'épices que je fais la rencontre de maman Irène, qui en plus de l'huile de palme et des épices, vend également du miel depuis plusieurs années.
Le miel, ça sort de l'ouest, la forêt de l'ouest là-bas. Oui, les clients eux-mêmes ils font la distinction, ils connaissent le miel. Et eux-mêmes te disent que maman, je peux tester. Je dis oui. Donc ils prennent un papier, ils mettent une goutte de miel. Si ça ne ressort pas un peu comme de l'huile de l'autre côté, ils savent que c'est bon. Parfois ils retournent la bouteille de miel. S'il y a un dépôt en bas, un peu comme du sucre raffiné, ils savent que c'est pas bon. Parce qu'avec du bon miel, quand tu retournes, tout le miel doit être liquide et un peu épais. Donc parfois quand c'est du mauvais, ça fait un dépôt au fond. Et parfois quand le miel est le même bon, on le dilue, il devient plus léger. Donc les clients eux-mêmes connaissent quand ils prennent, ils regardent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je les amène à comprendre, à faire la différence entre le bon et le mauvais. C'est pas seulement l'extrême nord. Il y a le miel qui sort du nord, il y a le miel qui sort de l'ouest. C'est pas seulement le miel du nord qui est le bon. Mais seulement que le miel du nord est un peu plus noir. Par contre, celui de l'ouest est moins noir que celui du nord. Le litre, c'est 2500. 1500, 1000 francs. Ça dépend de la quantité que le client veut. Il y a des petites bouteilles. Il y a même pour 500 pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, qui veulent juste un peu pour la toux. Le miel, beaucoup de gens l'utilisent comme le sucre. Hein. On l'utilise pour les enfants, on l'utilise aussi pour les personnes malades. Là. Enfin, ça a beaucoup de vertus dans tous les cas.
Le miel, qui fait partie des rares denrées impérissables, est très prisé. Il trouve sa place autant sur la table du petit déjeuner que dans les recettes de cuisine ou de pâtisserie. Il en existe plusieurs variétés, comme le miel d'eucalyptus, le miel à l'orange, ainsi que de nombreuses autres déclinaisons. Et quand on parle de miel, comment oublier celui d'Oku, récolté au mont Oku, dans le nord-ouest et dont la blancheur lui a valu d'être en 2013 le premier miel avec indicatif géographique protégé en Afrique subsaharienne. Autant de qualités qui justifient son prix, trois fois plus élevé que celui du miel dit ordinaire. Par exemple, au supermarché Carrefour, où les prix diffèrent d'une marque à une autre, on retrouve 250 grammes de miel blanc à 6500 francs, comparé au miel d'orange dont 375 grammes coûte 9990 francs. Dans ce supermarché, vous trouverez également du miel d'acacia à 7900 les 375 grammes ou encore du miel de forêt sous le format 900 grammes à 7250 francs. Réputé pour ses vertus curatives, le miel joue un grand rôle pour notre santé et le nutritionniste Romain Signe nous éclaire sur ses atouts pour l'organisme.
La consommation du miel doit se faire en fonction des consignes d'un professionnel qui tiendra compte de l'état physiologique de chaque individu. Cependant, chez une personne saine, il peut consommer quotidiennement 1 à 2 cuillères par jour, le matin pour un regain d'énergie, et le soir, il peut également consommer en infusion pour favoriser un meilleur sommeil. Cependant, il faut s'assurer d'avoir du miel pur et surtout du miel local pour être sûr de bénéficier de toutes ses vertus. Donc en conclusion, le miel est un médicament formidable qui allie le plaisir et la santé, mais sa consommation doit être modérée. Il y a des cas où le miel est fortement déconseillé. Par exemple, chez les enfants de moins d'un an, ils courent le risque de développer une maladie rare appelée le botulisme infantile. C'est une maladie grave due à certains spores contenus dans le miel qui vont donc affecter l'enfant de moins d'un an. Chez les adultes, les personnes diabétiques, s'ils consomment en excès, cela influencera forcément leur glycémie. Chez les personnes âgées, elles peuvent en consommer, mais toujours avec modération.
Ce nectar qu'on doit aux abeilles est aussi très utilisé dans la cosmétique pour ses propriétés et de nombreuses femmes en ont fait un allié de beauté incontournable.
Oui, moi j'utilise le miel sur mes soins corporels et sur mes soins du visage. Oui, ça agit.
Le miel, je l'utilise régulièrement pour mes soins faciales. C'est un produit bio, c'est un hydratant, purificateur, nettoyant, un cicatrisant même aussi.
Les abeilles qui sont à l'origine du miel joue également un grand rôle dans notre environnement et au cas où vous ne le sauriez pas, le 20 mai leur est consacré. Si au Cameroun c'est fête de l'unité, cette date est également journée mondiale des abeilles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'environ 70 à 75% des cultures vivrières mondiales dépendent en partie de la pollinisation par les abeilles et autres insectes, ce qui contribue à maintenir l'équilibre des écosystèmes en aidant à la production d'autres cultures telles que le café et le cacao.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Merci Vielingeya pour ce petit point sur le miel, notamment au niveau des restrictions, parce qu'on a tendance à penser que oui, tout le monde peut en consommer, mais il est important de faire attention quand ça concerne les enfants et ceux qui souffrent de certaines maladies. On va à présent marquer une escale dans le quotidien de Junior, qui est étudiant et commerçant.
Escale dans Classe Éco.
L'étudiant François Junior. Bon, je suis ici là, je vends des accessoires téléphoniques comme pochettes, glaces, au fait tout ce qui concerne téléphone. Bon, je souhaite cette activité pourquoi? Vu l'ampleur des choses, il est bien vrai, c'est pas quelque chose qui va me lancer dedans. Bon, c'est parce qu'il fallait que je cherche quelque chose, je mets ce pied pour pouvoir subvenir à mes besoins. Quoi. C'est pourquoi j'ai choisi cela parce que de jour en jour, on achète des téléphones et de jour en jour, les pochettes se gâtent, les chargeurs se gâtent. Bon, et tout le monde a droit à un téléphone et a droit à un chargeur. Donc, on va changer ça de temps en temps. Donc, j'ai choisi ça pour ça parce que on va beaucoup sortir. Quoi. Bon, en dehors de ça, je suis d'abord étudiant. Puis, j'ai fait ma filière à l'université. La GMP, génie mécanique et productive. Bon, le génie mécanique, c'est une filière qui ça nous permet de travailler dans les actions mécaniques. Par exemple, comme si je suis dans l'entreprise, je peux se travailler dans des structures à haute pression, déjà les vérins pour transporter quelque chose d'un point à l'autre point avec des machines. La fabrication des pièces aussi, oui, ça c'est un peu. Le parcours qu'il faut pour être dans mon domaine, c'est simple. Peut-être un bac, ouais. Pour importer un bac, on va en avoir. Ma vision, c'est d'être un ingénieur en production et de produire beaucoup de pièces, quoi. Donc, montrer l'exemple. Bon, vu la situation de notre pays, tout le monde en sait. Ma filière, c'est pratiquement plus à l'extérieur. Parce que c'est plus à l'extérieur qu'on parle plus de la génie mécanique, on parle plus de la fabrication. Et étant donné qu'ici, nous, on ne fabrique pas les pièces. On repart plutôt les pièces. Non, on ne fabrique pas les pièces, étant donné qu'on n'a pas des usines ici, des traitements des métaux. Je pense qu'il y en a seulement peut-être trois pays en Afrique pour la transformation des métaux. Je pense qu'il y a le Nigeria et l'Afrique du Sud. Bon, j'ai choisi cette filière parce que on ne sait pas, un jour ou l'autre, l'opportunité peut s'ouvrir. Et même d'ailleurs ici, là, du jour au lendemain, ça peut changer. Et ma filière, d'abord, ça me permet à travailler dans n'importe quelle entreprise. Tant qu'il y a mouvement, par les machines, tant qu'il y a production, c'est la génie mécanique. Je peux beaucoup le conseiller. Le domaine qu'on fait, c'est un domaine vaste. Partout où on ira, on va trouver des machines. Parce que pour faire n'importe quoi ici, ce sont des machines. Ne serait-ce que ce qu'on va manger, ce sont des machines. Pour concevoir n'importe quoi, ce sont des machines. Donc, celui qui a fait génie mécanique productive et qui maîtrise réellement sa filière ne peut pas dire qu'il a manqué de travail dans n'importe quelle entreprise. Je me retrouve à faire cela parce que la famille n'est pas assez aisée pour dire qu'on va entièrement prendre soin. Oui, les deux, vu la situation. La situation de l'école aussi, les photocopies, tout ça, je m'en sortais pas vu, l'économie quoi, oui. Mais la nutrition, tout ça, oui. C'est pourquoi j'ai choisi de faire mon petite activité comme ça, là je vends, en après-midi je pars à l'école et quand je rentre maintenant le soir, je essaie encore de vendre un pour subvenir à tous ces besoins-là. Bon, tout ça, c'est qu'il faut tout savoir comment gérer ton emploi de temps, c'est rien de l'organisation. Quand tu t'organises, tu vas le faire, étant donné qu'à l'université, on considère qu'il y a déjà des adultes et qui prennent soin déjà de... Et quand on est adulte, en prenant soin déjà de soi-même, il faut travailler, il faut une activité. Donc, à l'école, on nous prépare pour ça. Les problèmes auxquels j'ai fait face d'abord à l'école, c'est que lorsque j'arrive, je vais d'abord parler de problèmes personnels de moi-même. De lorsque j'arrive à l'école, des fois je suis fatigué parce que j'ai d'abord passé la journée ici là et je suis épuisé. Et quand je suis en classe, quand on donne les cours, il me faut me donner beaucoup à fond pour saisir. Et les difficultés que je rencontre ici là, c'est que le revenu n'est pas assez rentable. Bon, ils sont fiers étant donné que je ne les dérange pas, je ne prends aucun soin à quelqu'un. Ils sont fiers parce qu'avoir un enfant qui est à l'université et que chaque matin il ne se lève pas et il vient de dire papa, je veux l'argent de transport, je veux l'argent des beignets, je veux l'argent des photocopies, mais c'est une grâce. Et que toi-même tu vois que tous ces supports de cours il a. Son argent, il part à l'école chaque jour, il rentre chaque jour. La nutrition, le jour où on a préparé à la maison, il mange, le jour où on a préparé, il ne gère pas. Mais et que toi tu gères seulement la pension, c'est que ça, c'est une grâce d'avoir cela. C'est une grâce. Donc il ne va qu'être fait parce qu'il faut avoir beaucoup de vision, avoir le sens de l'entrepreneuriat. Ça arrive, mais lorsque tu sors et que ton objectif est fixé sur quelque chose, quand on sort les petits détails qui vont arriver, tu ne gères pas, tu vas pas gérer tous ces petits détails là, parce que ce sont les choses, ça va arriver après. Donc quand tu te fixes des objectifs, il faut t'y mettre pour arriver au bout, parce que ce sont les choses qui vont beaucoup freiner. Parce que si à un seul instant j'achète une pièce et je me décide maintenant à donner la pièce là à un seul soir à une fille, mais c'est mon capital qui est en train de chuter, c'est mon marché qui est en train de chuter. Parce que si je simplifie une pièce, c'est que demain je vais simplifier deux pièces, le lendemain je vais simplifier trois pièces, et c'est comme ça là que je vais me retrouver néant. Je me lève à 4h. Oui, je me lève à 4h. Si j'ai un peu à étudier, j'étudie un peu. À 6h, ce que j'ai à faire à la maison comme tâches ménagères et tout, oui, je fasse. Après, je peux accompagner la mère à son commerce. Je me reviens maintenant à la maison, je m'apprête, j'apprête mes cahiers, je mets dans le sac, j'arrive ici là peut-être à 8h, je mets mon commerce maintenant, je vends. À 14h, je m'en vais à l'école. Lorsque j'arrive à l'école, je commence quoi à 14h. À 18h, je suis ici là, j'ouvre encore. À 20h maintenant, je suis à la maison. J'essaie un peu d'étudier, j'étudie maintenant. L'être humain a besoin du sommeil. Je me couche maintenant, j'essaie de dormir. C'est comme ça que j'ai arrangé mon emploi de temps. Et les jours où je n'ai pas la marchandise, je me dépêche à me lever très tôt le matin pour aller au marché chercher ma marchandise, déposer, vendre avant d'aller à l'école. Pour le commerce, j'ai des équipes, mais les supérieurs auxquels je prends la marchandise chez eux. Mais sur le cadre de l'école, je n'ai pas encore d'équipe. Je suis encore en train de chercher comment je vais faire pour pouvoir trouver d'équipe. Bon, ce que je prévois dans mon objectif académique, c'est tout juste soit être autonome de moi-même. Mais vu les circonstances, s'il arrive que je sois en entreprise, c'est que ça ne dérange pas, c'est en entreprise. Tout ce que je voulais donner comme conseil, c'est que rien n'est au hasard et rien n'est tombé du ciel. Tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. Même le Créateur lui-même, il a dit, aide-toi le ciel, t'aidera. Donc, il ne va que laisser cela, parce qu'avant de faire ça, il y a beaucoup travaillé au chantier avant de faire cela. S'il veut se lancer dans le commerce, qui se met d'abord des objectifs, parce que des haines, pour faire n'importe quoi, pour réaliser n'importe quel projet, ce sont des objectifs à atteindre. Lorsque tu mets des objectifs à atteindre, il faut te donner à toi-même, il faut te donner du temps, ouvrir ton esprit et demander aussi pourquoi à Dieu. Demander aussi pourquoi à Dieu. Et chercher si à la fin, tu as pu atteindre tes objectifs.
Escale dans Classeco. Tout savoir sur les dernières innovations dans Classeco.
Avis à tous les voyageurs, l'innovation de ce lundi s'adresse à vous. Entre les agences de voyage et l'affluence, ce n'est pas souvent facile pour tout le monde et surtout pour ceux qui n'aiment pas s'aligner. Donc si vous êtes fatigué des files d'attente et du stress, vous aurez peut-être envie d'essayer le covoiturage avec Doulou, une application 100% camerounaise de covoiturage qui vous permet de trouver un conducteur fiable en quelques clics, de réserver votre place directement depuis votre téléphone, de voyager en moindre coût, notamment sur les trajets Yaoundé, Douala, Bafoussam, de gagner également du temps parce qu'il y aura pas d'arrêt inutile et pas de surcharge et surtout de voyager dans le confort avec des véhicules vérifiés. Que vous soyez donc un voyageur ou un propriétaire de véhicule, si vous avez une voiture, vous pouvez proposer vos trajets et gagner de l'argent. Et si vous devez voyager, vous pouvez réserver un conducteur fiable qui part à l'heure. Si ça vous intéresse un tant soit peu, rendez-vous sur Play Store et App Store pour télécharger l'application Doulou. On parle d'autre chose à présent. L'axe Dakar-Bamako, par lequel transite carburant, denrées et matériaux essentiels, est aujourd'hui la cible du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Génime. En multipliant les attaques contre les chauffeurs routiers, le groupe djihadiste cherche à étouffer le Mali et à fragiliser toute la région. C'est le sujet d'Afrique Économie de ce jour.
Oui, je suis Abidjan.
Daouda Bamba, secrétaire général de l'Union des chauffeurs routiers d'Afrique de l'Ouest.
Alors, je viens à l'instant de faire la levée de corps de trois de nos camarades qui ont été tués. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce que ça fait mal. Comment est-ce que les conducteurs routiers souffrent.
Daouda Bamba passe des heures angoissantes sur son téléphone. Les attaques de chauffeurs se multiplient depuis un mois sur les différents axes. Prise d'otages, violence, raquettes. La période est douloureuse. Malgré cela, il appelle à poursuivre les approvisionnements au Mali.
Les risques là deviennent très grands dans la sous-région. Alors, les opérations qui se passent, ce sont des opérations pour saper le moral des conducteurs routiers. Alors, nous voulons dire à nos camarades transporteurs, nous voulons dire à nos camarades chauffeurs d'avoir la résilience, d'avoir du courage. Si nous baissons les bras, alors nos pays sont foutus économiquement.
Des systèmes d'escorte militaire des convois ont permis d'approvisionner Bamako en essence la semaine dernière pour quelques heures de répit dans la pénurie. La route nationale 1 reliant Dakar à Bamako en passant par Kay est prise pour cible. Elle permet d'acheminer 30% des importations terrestres maliennes, carburant et céréales notamment. C'est le cœur de l'économie malienne qui est visé.
Le port du Mali, c'est Dakar.
Bakary Samb, directeur du think tank Timbuktu Institute.
Et le Mali est le premier partenaire économique du Sénégal. Sur ce corridor se joue aujourd'hui l'enjeu même, aussi bien pour le Mali avec l'importation de la nourriture, des produits pétroliers, etc., mais aussi pour le Sénégal, dont les recettes provenant de ce trafic entre le Mali et le port de Dakar représentent à hauteur de 400 milliards de francs CFA.
Autre conséquence, près de 80% de l'or malien, principale ressource du pays, est produit dans la région de Kay. La pénurie de pétrole menace la production dans les mines, assure Bakary Samb.
Cela met en péril l'un des rares secteurs porteurs du Mali. En 2023, par exemple, les mines représentaient 6,3% du PIB et 82% des exportations. Donc, à moyen terme, cette situation pourrait entraîner la réduction, voire l'arrêt total d'activités vitales comme l'extraction de l'or, et ce sera quelque chose de dommageable pour les emplois locaux et surtout pour la trésorerie publique malienne.
Les activités des sociétés étrangères sont également ciblées par le GNIM. Le groupe a attaqué 7 sites industriels étrangers dans la région de Kaï en juillet août dernier.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
Merci d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de passer ce vol en votre compagnie. Justement, le prochain vol en classico, c'est demain à partir de 10h. À demain.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion. Est une rediffusion.
Retrouve tes émissions préférées à toute heure.
Quel que soit le temps que ça prendra, je vous retrouverai
sur volume3media.com.